C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Will Eisner, auteur de bande dessinée, 1917-2005. Œuvre Le Spirit, bande dessinée diffusée aux États-Unis de 1940 à 1952. Personnage Le Spirit. Adaptation, un téléfilm aux États-Unis en 1987. Le Spirit, film de Frank Miller en 2008. Le personnage du Spirit étant incarné par Gabriel Macht. Une des choses les plus sinistres de nos sociétés supposément libérales est l'héroïsation de la police. La police existe pour remplir une fonction déplaisante et nécessaire, non moins d'ailleurs que la fonction de ceux à qui les policiers déferrent leurs captifs, les juges. Fonction nécessaire, mais l'optique aussi, et on n'a jamais héroïsé les opticiens. Et en quelle quantité ne le fait-on pas pour les policiers ? Une bonne partie des rayonnages de certaines librairies est constituée de romans policiers, 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 policiers. Elles pourraient installer un gyrophare au-dessus de leur porte. Dans la fiction, il y a bien plus de personnages de policiers que de professeurs. D'où cela peut-il venir ? J'établis une grande différence entre public et lecteur. Le public consomme, le lecteur réfléchit. Je ne dis pas que tous les lecteurs de romans policiers consomment, ni que tous ceux qui lisent d'autres genres de livres réfléchissent, mais enfin, la lecture exclusive de romans policiers est curieuse. Elle provient peut-être de la passion du public pour le vice. Si le vice est puni grâce aux policiers des fictions, il a été exposé et le voyeurisme est assouvi. Dans Razzia sur la Schnouf, il y a Schnouf. De quoi les personnages de flics vengent-ils le public ? Une chose qui serait à vérifier, c'est si l'apparition du personnage du détective privé n'a pas été l'invention d'une société devenue de plus en plus policière. Il a été créé en France par Émile Gaboriau sous le Second Empire, régime où la police était plus que puissante. Il ajoutait de la police à la police, en quelque sorte. En 1940, le dessinateur Will Eisner a transporté le personnage du détective dans les comics. Il comprenait déjà depuis peu, puisque ces magazines ont été créés à la fin des années 30, les super-héros. Dans une interview, Will Eisner a proposé une théorie selon laquelle les super-héros seraient nés à cause de Hitler. Hitler voulait se faire passer lui-même pour un super-héros, un surhomme, et des dessinateurs souvent juifs, très inquiets de Mein Kampf et de ce qui s'annonçait, ont inventé ces super-héros démocrates. On ne peut tout de même pas généraliser, Eisner, juif lui aussi, n'a pas voulu dessiner les super-héros que les magazines espéraient lui voir créer. Il a inventé le Spirit, homme ordinaire, presque ordinaire, qui rend la justice sans super-pouvoir. L'intéressant est que, plus que les histoires, c'est la manière stylisée de les raconter qui l'emporte. Je dirais que, bien avant d'inventer des décennies plus tard le roman graphique, Will Eisner a inventé avec le Spirit la nouvelle graphique. Qui est le Spirit ? Pour en parler, je reçois Jean-Pierre Mercier, historien de la bande dessinée. Jean-Pierre Mercier, dites-moi s'il vous plaît, à quoi ressemble ce Spirit dont le patronyme est Denny Colt ?
Alors, c'est un grand brun, baraqué, on va dire, musclé, qui est toujours dans un costume bleu, avec une chemise blanche et une cravate rouge de mémoire, avec des gants et un chapeau.
Alors là, vous me donnez des couleurs, mais les planches initiales étaient en noir et blanc.
Mais elles étaient publiées en couleur dans les comics, qui étaient en fait des faux comics, parce que c'était des suppléments hebdomadaires qui étaient insérés dans des journaux.
Quel type de journaux ?
Des quotidiens. C'est un éditeur, une boîte s'appelait Pacific, qui s'est rendu compte que les comics, justement, où étaient nés les super-héros, étaient en train de manger une partie du public et qui s'est dit qu'une bonne manière de contrecarrer ça, c'était de mettre des comics dans les journaux. Donc il a commandé à Eisner un comics par semaine, dont la partie importante était le Spirit, et il y avait des petites bandes complémentaires, Lady Luck et des choses comme ça, chaque semaine.
De manière physique, c'était un cahier supplémentaire ?
Absolument.
C'était un cahier.
Et au format comics, c'est-à-dire 17-23 en gros.
Et c'était dans tout le territoire des États-Unis, c'était syndiqué, comme on dit.
Oui, c'était syndiqué, mais il y a une vingtaine de journaux. Ils touchaient, je crois, 3 millions de lecteurs par histoire, par semaine, bonne époque. Ce qui est vraiment pas mal. Enfin, c'est pas la circulation des très très grandes séries de l'époque, mais ça a été extrêmement marquant.
Ça a été un succès tout de suite.
Ça a été un succès. Ce qui était intéressant, et Eisner l'a dit, il dit en fait, je me suis rendu compte que je touchais un public, je savais pas très bien lequel, mais c'était pas un public adolescent comme pour les comics, c'était dans un journal. Donc il y avait une espèce d'incertitude, ce qui fait que j'ai pu tenter des choses que j'aurais pas pu tenter dans les comics. Il a longtemps travaillé pour les comics, mais et là il était très très heureux de pouvoir partir sur d'autres formules et d'autres tentatives pour un public. Qui n'était pas complètement identifié.
Lui-même était assez jeune à l'époque, il avait une trentaine d'années,
oui,
c'est ça?
Il est né en 17, oui, effectivement, donc il était très jeune.
Est-ce qu'on peut dire que c'est ses débuts?
Non. Il a commencé très jeune, il a publié, il avait 19 ans, ses premières publications. Et c'est quelqu'un... Alors, Eisner, c'est un cas particulier parce que c'est un très grand auteur et c'est un excellent businessman. Il a toujours très bien gagné sa vie, il a mis un point d'honneur à toujours très bien gagner sa vie. Et il a monté un studio avec un associé qui s'appelait Jerry Iger en 36. Et tous les deux, alors comme c'est lui qui a mis la mise de fonds qui était de quelques dizaines de dollars pour louer l'étage où ils se sont installés.
C'était où ?
À Brooklyn, je crois.
À Brooklyn.
À New York, en tout cas. Et c'était pas Iger-Eisner, c'était Eisner-Iger. Et là, ils ont commencé à faire un truc qui était une idée géniale. C'est on va pas essayer de s'épuiser à proposer une bande dessinée. On va aller voir les journaux et on va leur dire, on vous fait des prototypes. Et si ça marche, vous trouvez des dessinateurs pour avancer, pour continuer le prototype qu'on vous aura proposé. Et il a créé une série qui a très très bien marché, qui s'appelait Hawks of the Seas, qui est donc le Faucon des Mers, qui a été publié en français, qui a très très bien marché, et Eisner l'a dessiné. Et ça a été assez marquant pour beaucoup de jeunes lecteurs de l'époque. Et il a créé aussi un personnage qui a eu une postérité assez longue, puisque c'est Sheena, Queen of the Jungle, qui est la version féminine et blonde de Tarzan, qui a été jusque dans les années 70, je crois, reprise par un nombre incroyable de dessinateurs. Donc, il faisait des prototypes qu'il proposait après aux éditeurs.
Il a fait une école?
Non, il était à peu près... oui, il a dû suivre quelques cours, mais comme beaucoup de dessinateurs de cette époque-là, il était quand même grandement autodidacte. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a, dans la première partie de sa carrière, toujours travaillé en studio.
Par opposition à quoi, vous voulez dire?
Par opposition à des auteurs qui pouvaient travailler seuls ou avec un seul assistant. Là, c'était, comme disent les Américains, sweatshop, c'était un système presque de... une organisation un peu taylorienne où il y avait celui qui faisait les décors, celui qui faisait ceci, celui qui faisait cela. Et il, dans le premier studio Eisner-Iger, par exemple, il a travaillé avec deux jeunes dessinateurs de sa génération qui s'appelaient Jack Kirby, qui ont fait la carrière qu'on sait après. Et il a comme ça repéré beaucoup de gens. Et le Spirit a été aussi fabriqué comme ça. C'est-à-dire qu'il a recruté un certain nombre de gens qui l'aidaient pour les scénarios, par exemple, celui qui faisait les ancrages et qui, de la grande époque et qui est absolument génial, c'est Lou Fine, qui était un type qui avait un pinceau absolument formidable. Et donc, tous les beaux noirs et blancs, qui étaient l'esthétique d'Eisner, ont été transcendés par des collaborateurs qui travaillaient dans son studio avec lui. Et il a eu... alors, le plus connu encore aujourd'hui, c'est... Jules Pfeiffer qui a fait une carrière après la guerre beaucoup plus très personnelle, très politique, avec un dessin qui a beaucoup inspiré beaucoup de gens, en particulier Bretéché. Mais Pfeiffer a commencé très jeune par être scénariste de d'Eisner.
Mais pour les dessins, le Spirit tel que nous le lisons, tous les dessins sont d'Eisner. Il ne divisait pas le travail au point de faire les décors des dessins par d'autres.
Si. Il faisait les esquisses, il peaufinait le scénario, il faisait les esquisses au crayon, et puis ensuite il passait les planches à Lou Fine qui faisait le pinceau. Il y avait quelqu'un qui travaillait sur les couleurs. Il fallait produire 8 pages par semaine, plus les bandes complémentaires dont je parlais tout à l'heure. Et il y a même une période quand Eisner, je pense qu'on en parlera... partira à l'armée pendant la guerre, puisqu'il est recruté pour aller combattre pendant la Seconde Guerre mondiale. Le studio va continuer à produire du Spirit sans lui.
Alors, pour en revenir au personnage du Spirit, qui n'est connu dans la bande dessinée pratiquement que par son surnom, c'est un détective privé qui, au premier épisode, se propose d'aider un certain commissaire Dolan à trouver un criminel. À la suite d'une bagarre, il passe pour mort, mais il ne l'est pas. Mais lui continue à se faire passer pour mort, ce qui l'aidera à mener des enquêtes par surprise. Et, sauf erreur, le commissaire Dolan est le seul à connaître sa véritable identité.
Oui, je crois. La chose formidable symboliquement, c'est qu'il a établi ses quartiers et il vit sous le cimetière où il est enterré.
Voilà.
En fait, c'est pas une création pure et entière d'Eisner. Il a beaucoup discuté avec Everett, dit Buzzy Arnold, qui est l'éditeur dont je parlais tout à l'heure, qui lui a vraiment passé commande. Il y a une discussion, il y a des échanges de courriers, ils ont beaucoup discuté. Alors, il y a la célèbre anecdote de Buzzy Arnold qui lui dit « Je veux un héros à costume ». Je veux qu'il ait un costume. C'était une façon de rattacher ça à la tradition de super-héros. Lui, il voulait absolument pas en entendre parler.
Et donc, il lui a mis un loup.
Et il lui a mis juste le masque sur les yeux en disant, c'est bon, il a un costume. Et quand on lui a dit, mais pourquoi t'as fait ça? Il dit, le contrat était quand même difficile à refuser. Donc, il fallait que je lâche un peu de l'as, mais il a lâché le minimum.
Mais en même temps, pardon de vous interrompre, c'était une bonne idée parce que ce loup est à la fois la signature du personnage, évidemment, mais c'est aussi il est destiné à provoquer comme une sidération chez l'adversaire.
Oui, de la même façon. C'est un personnage de la nuit. Beaucoup des histoires, au moins au début, fonctionnent sur ce principe-là. Donc il est un peu dans la tradition Fantomas, Zorro, enfin tous ces personnages qui ont une identité secrète. C'est un Américain classique. Il est très, il a une capacité extraordinaire à la bagarre, comme tous les héros.
Mais en même temps, il n'a aucun super pouvoir.
Non, aucun.
Voilà, c'est ça qui est
Sauf qu'il a des points absolument redoutables et qu'il est capable de mettre par terre à peu près tous les malfrats qui passent à sa portée. Pas toujours, cependant.
Pas toujours, c'est vrai. Dans un article intitulé The Simple Art of Murder, Raymond Chandler décrit Philip Marlowe comme suit: mon héros est relativement pauvre, c'est un homme ordinaire, il se refuse à gagner de l'argent malhonnêtement, c'est un solitaire, il parle comme un homme de son époque, c'est-à-dire avec humour, un sens aiguisé du ridicule, un profond dégoût pour le factice. On dirait assez le spirit, non?
Oui. Et je pense que Eisner, le personnage naît donc le 2 juin 40, on est en plein dans la période des films noirs, qui sont directement inspirés d'Eisner, de Dashiell Hammett et de tous les auteurs qui ont pris cette suite. Et donc, oui, mais c'est clair, hein, c'est paysage urbain, la nuit, les malfrats, il y a toujours au moins une bagarre, au moins au début dans les premières histoires. Mais ce qui est fascinant avec Eisner, c'est que c'est quelqu'un qui pose dans le premier épisode son univers et qui va le développer un certain temps, mais qui très vite passe au second degré. C'est-à-dire que on est dans quelque chose qui est très marqué par... vous parliez de nouvelles tout à l'heure, sur l'esprit de la nouvelle, c'est-à-dire de prendre un scénario et de jouer par rapport à son lectorat que Eisner imaginait adulte sur des paradoxes. Et il y a des histoires où, par exemple, on change complètement de registre. Il y a des histoires qui sont des histoires presque sentimentales. Un jour, et il y a une mise en scène qui est extrêmement importante, et c'est un truc sur quoi Eisner a toujours beaucoup insisté. L'éditeur, donc, lui disait, il faut que ton personnage ait il a un costume, mais il faut qu'il ait un logo, comme Superman, comme Batman, etc. Et Eisner disait, non, c'est une petite nouvelle. Si jamais j'ai un logo, les gens, s'ils aiment ça, ils vont y aller, mais si au bout de la 3e ou 4e histoire, ils sont complètement lassés, dès qu'ils vont voir le logo, ils vont tourner, ils vont passer à autre chose.
D'ailleurs, ce qui est assez frappant, c'est qu'il n'y a pas, à une petite exception près, de méchants récurrents, comme très souvent chez les super-héros. Il y en a un, il y a la pieuvre.
Il y a l'octopus, au début, il y a le docteur Cobra.
Mais le plus souvent, les histoires changent à chaque fois, il y a un argument à chaque fois. Donc c'est ça qui est intéressant.
Et il joue beaucoup sur le destin de petits personnages ordinaires. Ça, c'est extrêmement important aussi, et c'est une façon de s'adresser à un public de gens qui prennent le train ou qui prennent le métro, qui vont lire ça en très peu de temps et qui peuvent s'identifier, c'est dans le décor d'une ville, et ça peut leur parler directement, le petit employé qui lit ça et qui voit un personnage qui peut être un des protagonistes d'une des histoires.
Les histoires sont, au fond, pas si policière que ça.
Non, très vite, il va se détacher de ça. Il y a des histoires, par exemple, où il fait des parodies de romans à l'eau de rose. Alors, par exemple, l'histoire la plus chère au cœur d'Eisner, il la cite à peu près dans toutes les interviews, c'est l'histoire dite de Gerhard Schnabel, qui est un type qui, enfant, découvre qu'il a la capacité de voler, qu'il laisse très rapidement tomber parce que ses parents lui mettent une fessée retentissante en disant « tu recommandes jamais ça », et qui devient gardien dans une banque, et il y a un braquage, et il se fait virer parce que le braquage était... Les coffres étaient sous sa responsabilité, il a failli donc y les jeter, et en fait, de désespoir, il monte en haut de l'immeuble, et ils s'élancent pour voler. Et pendant ce temps-là, ceux qui ont fait le braquage sont eux aussi sur les toits, poursuivis par le spirit. Et en fait, il va voler et il va prendre une balle perdue. Mais il est le seul, personne ne l'a vu, il est le seul à avoir volé et il tombe comme s'il s'était suicidé. Et donc, pour le public, c'est quelqu'un qui a perdu son job et qui s'est suicidé. En tout cas, pour le lecteur, ça peut être ça. Mais comme on sait, nous, on l'a vu voler, on est les seuls en tant que lecteur à l'avoir vu voler. Il y a cette espèce de paradoxe. C'est une fable. Hein. C'est une fable sur la moindre personne, l'employé le plus banal peut avoir des dons particuliers. Il suffit de vouloir les mettre en œuvre. Donc il y a une dimension morale. Et c'est une histoire qui est extrêmement émouvante. Et en même temps, avec un noir et blanc formidable, un sens du découpage absolument génial. C'est pas étonnant qu'il ait marqué énormément de lecteurs de l'époque et de jeunes lecteurs qui sont devenus des dessinateurs après, et ou des scénaristes. Stan Lee, par exemple, citait le Spirit comme une de ses plus grandes influences de lecteurs enfants.
Ce qui est frappant, c'est ce mélange et sa grande liberté. C'est-à-dire qu'on a à la fois des éléments parodiques, qui vit dans un sous-sol, dans le cimetière, vous l'avez dit, où il est enterré, il y a quelqu'un qui vole, et en même temps, il y a aussi des passages de presque de romans réalistes à la Upton Sinclair, où il y a quelque chose d'engagé, de politique. Tout d'un coup, on a affaire à un détective de gauche qui s'en prend aux gens d'argent qui sont escrocs, qui défend les petits.
Il y a toujours ça chez Eisner. Je pense que, alors lui, c'est un fils de Brooklyn. D'ailleurs, comme beaucoup de dessinateurs de bande dessinée de l'époque, hein, je parlais de Jack Kirby, Gil Kane, Bob Kane, c'est des enfants juifs, ils sont tous fils de des enfants de l'immigration juive d'Europe de l'Est, tous. Eisner, comme eux tous, a grandi dans une misère extrême et il avait une très claire conscience de ça. Et quand je disais tout à l'heure qu'il mettait un point d'honneur à très bien gagner sa vie, c'était extrêmement important pour lui. Symboliquement, il n'était pas question qu'il crève la faim à faire de l'art. Sa mère lui avait fait jurer que ça ne se passe jamais comme ça. Il fallait qu'il gagne sa vie.
J'espère qu'il a connu cette phrase de Voltaire qui me revient à l'esprit quand vous me parlez, qui est dans une lettre, Voltaire dit « J'ai tellement vu d'hommes de lettres malheureux et pauvres que j'ai décidé de ne pas en ajouter un à leur suite.
» Il y a quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un, il était connu pour ça, c'était un lecteur de contrats absolument redoutable. Et par exemple le Spirit, il a négocié avec l'éditeur, la première publication était sous copyright de l'éditeur, mais le personnage lui a appartenu et il l'a gardé jusqu'au bout. Et aujourd'hui, le Spirit appartient
à la
succession, absolument.
Nous allons maintenant entendre une chanson du film Le Spirit de Frank Miller en 2008. C'est une célèbre chanson de Friedrich Schoenaerter et Samuel Lerner, Falling in Love Again, ici interprétée, je ne dirai pas comment, par Christina Aguilera. Jean-Pierre Mercier, nous parlons donc du Spirit de Will Eisner, et ce qui est intéressant, comme toujours dans les œuvres d'art anciennes, c'est que on fait parfois des lectures moralistes rétrospectives, et c'est arrivé à Will Eisner aussi, on le fait évidemment à propos, le plus souvent en tout cas, à propos des minorités ou des dominés. On parle en particulier de l'attitude envers les femmes, et donc, quelle est l'attitude du Spirit envers les femmes? Il y a quelques femmes fatales dans la série.
Absolument. Et ça, c'est un des traits particuliers, c'est-à-dire que Eisner répond à la commande et remplit le contrat. C'est-à-dire, il y a un détective, il y a des malfrats, des balafrés, des gens avec le crâne épais, le nez cassé, et puis il y a des femmes fatales. Et il y en a beaucoup. Et elles sont les femmes fatales des années 40. Il y a un critique qui a dit une chose très juste, il a dit ce qu'il y a de bien avec le Spirit, c'est qu'on est dans les années 40 et on est aussi déjà dans une forme de, sinon de parodie, en tout cas de nostalgie des années 40.
En fait, c'est pas lui qui a inventé la femme fatale.
Non, bien sûr. Mais elles sont vraiment, elles ont le profit de l'époque. Elles sont brunes, avec un physique assez généreux, enfin des choses de genre. Et elles ont des noms absolument formidables. La plus célèbre, elle s'appelle Pegel. Alors, il faut savoir que pour les Américains de l'époque, c'est la façon dont on prononce Pigalle, le nom du quartier parisien. Donc voilà, la référence, c'est quand même ça. C'est des femmes qui sont extrêmement séduisantes, extrêmement intelligentes et extrêmement dangereuses.
On peut pas dire que ça soit misogyne, je pense, non. Car en réalité, elles sont cyniques, mais pas plus que les hommes. Les hommes sont cyniques aussi.
Et elles sont plus intelligentes que les hommes.
Et elles sont combatives, en tout
voilà.
cas.
Voilà. Et alors, ce qu'il y a, c'est que le spirit, comme tout héros, a une éternelle fiancée qui se trouve être la fille du commissaire Dolan dont on a parlé tout à l'heure, Hélène, qui est aussi un sérieux caractère. C'est pas une petite femme. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a une forte, très forte
personnalité. On peut même dire qu'elle est féministe, non?
Absolument.
Assez rare, d'ailleurs, de la part d'un créateur homme dans les années 40. Ouais. Il y avait assez peu, même chez les romanciers, de personnages de femmes féministes. C'est assez audacieux, non?
Et tous les personnages féminins ont une très forte personnalité. Et ça, moi, je trouve que c'est très, très, très intéressant. Et sinon, il y a effectivement, autour, dans l'univers proche du Spirit, j'allais dire Eisner, il y a effectivement Ebony White qui est son aide.
Voilà, ça, c'est la question des Noirs, là. Ouais. Parce que c'est un chauffeur de taxi qui l'a pris à son service.
Voilà.
Et donc, on lui a reproché de lui avoir fait des mimiques tant soit peu douteuses et de le faire parler en ce qu'on appelait en France à l'époque en petit nègre.
En petit nègre. Ce qui est vrai. Quand on regarde les éditions originales, il parle effectivement en petit nègre. Il a effectivement le faciès, les grosses lèvres, etc. Les mouvements de libération des droits civiques dans les années 70 ont attaqué Eisner là-dessus. Eisner a dit pas d'anachronisme, c'est-à-dire c'était l'esprit de l'époque. J'ai peut-être eu tort de le faire. Et en même temps, ce personnage n'est pas un personnage secondaire, dans le sens où lui aussi, il a une responsabilité. Mais ce qui s'est passé, c'est que il a redessiné quelques histoires dans les années 70, en donnant de plus en plus d'importance à Ebony White. Et ça a eu un effet secondaire beaucoup plus intéressant, enfin, très intéressant de mon point de vue, qui est qu'Eisner s'est interrogé en se disant, je suis juif, je sais ce que c'est que l'antisémitisme, je sais ce que c'est que le racisme. Comment se fait-il que moi, j'ai pu tomber dans ce travers de quand même, quelque part, d'écrire un personnage noir qui est assez stéréotypé sur les stéréotypes de l'époque. Et en fait, cette réflexion l'a amené à un moment à se poser la question qui va être la question qui est dans toute la deuxième partie de son œuvre, en tout cas la fin, qui est la question des stéréotypes. Et il va revenir, raciste, et il va revenir sur le personnage de Fagin Dickens.
Non, Dickens, pardon. Oui.
Et il va faire une histoire sur Fagin le juif, Oliver Twist, en donnant la parole à Fagin. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour lui. C'est-à-dire que ça a été une façon de prendre ce problème et de le résoudre, si je peux dire d'une façon positive, en tout cas constructive, de faire une œuvre qui interroge la question des stéréotypes. Un créateur juif qui tombe dans les stéréotypes entre guillemets racistes pour un personnage noir et qui après s'interroge lui-même sur comment est-ce qu'on fonctionne à ce niveau-là quand on est un créateur.
Enfin, le fait est, c'est qu'on est toujours pris dans une époque, comme disait Montesquieu, on ne peut pas juger des gens si on ne leur passe pas les préjugés de leur temps, mais il ne fait pas autre chose que ce que fait un immense écrivain qu'est William Faulkner. William
Absolument.
Faulkner, qui est un génie, quand il fait parler des Noirs, il les fait parler en petit nègre, parce qu'aussi génial soit-il, il n'a pas encore conçu cette idée qu'il fallait lui donner un langage normal. Mais on faisait la même chose dans le roman avec les parlers provinciaux. Alors, un peu avant, si on prend Balzac fait les accents du Midi et les marques, fait l'accent juif et les marques. Mmh. C'était aussi un manque de réflexion, c'était pas nécessairement du racisme. Alors, on peut dire que le racisme est un manque de réflexion, bien sûr.
Mais pour Eisner, ce qui est très intéressant, c'est quelqu'un qui a subi le racisme antisémite. Hein. Il l'a raconté dans les romans graphiques de
et
la...
Puis il a fait une adaptation de... Enfin, quelque chose sur le protocole des
sages. Absolument, c'est son dernier livre. Il est mort juste en le finissant, enfin, juste après l'avoir terminé. Mais oui, bien sûr. Mais encore une fois, ce qui intéresse... Enfin, le spirit, il y a toujours une dimension de... Alors, faut faire attention si on parle de stéréotypes racistes, mais encore une fois, il y a une dimension de second degré. Mais c'est ni plus ni moins que, me semble-t-il, en tout cas, je suis pas un spécialiste, mais que ce qu'on peut trouver dans le cinéma de l'époque, le cinéma dont on parlait, les personnages des films noirs.
Et d'ailleurs, dans les histoires du spirit, dès les années 40, il y a une histoire où il est engagé par une société secrète de Noirs qui défend des orphelins noirs escroqués en tant que tels.
Absolument. Mais Eisner, c'est un étonnant personnage de ce point de vue-là, parce que c'est quelqu'un qui est toujours en avance sur son temps.
Alors, il y a une chose, Jean-Pierre Mercier, on l'évoquait au début, qui est très très importante et qui fait peut-être plus que tout la qualité et la perpétuité du spirit, c'est ce style très personnel du dessin de Will Eisner, qui est lui très stylisé lui-même, on peut le dire, qui est par moments outrageux exprès, qui est, il y a un dessin très caractéristique.
Alors, il vient Il vient pas de nulle part. C'est-à-dire que Eisner, comme il a travaillé pour les comics et qu'il a fait, comme je disais tout à l'heure, des prototypes, il connaît tout à fait bien les styles de ses petits camarades. Le noir et blanc d'Eisner vient de la grande révolution de Noël Sickles et de Milton Caniff avec Terry et les pirates, le noir et blanc photographique. Il va partir de là, mais là encore, il fait du second degré. C'est-à-dire que il va accentuer il y a les pages d'introduction pour ça sont absolument géniales.
Comment étaient ces pages d'introduction? C'était pleine page?
C'est une pleine page avec un texte de présentation et le titre du Spirit est toujours en rapport avec l'atmosphère que va développer cette courte histoire. Ça peut être, par exemple, le Spirit peut être indiqué une affiche déchirée sur un mur. Ça peut être une une de journal qui est froissée dans le caniveau, il pleut. Ça peut être sur la devanture d'un magasin sur lequel un personnage passe, on voit le Spirit.
Même au-delà de ça, il y a des dessins qui sont pas à l'échelle. Il y a un grand dessin puis un tout petit dessin en
absolument.
Bas qui crée des effets de cocasserie qui, pour moi, rappellent Little Nemo par
absolument.
Certains côtés.
Absolument. Et puis, il joue aussi sur la référence des génériques de films. On est dans un rapport avec le cinéma qui est constant. Et il y a un noir et blanc absolument formidable. Il y a un travail sur la couleur qui est aussi absolument formidable. Il disait toujours, il n'est pas le seul, hein, ma page est bonne quand en noir et blanc elle tient. La couleur, elle est importante, mais il faut que le noir et blanc le tienne. Et il y a des histoires, parce que celle-là, elle est extrêmement importante. Il y a une histoire qui s'appelle Showdown with the Octopus. Donc c'est bagarre avec l'octopus, le fameux.
Pieuvre,
ouais. La séquence principale, ça se passe dans une pièce fermée, noire. On ne voit rien. Et la bagarre se déroule à travers ce qu'on peut entendre et voir, et juste le faisceau d'un faisceau lumineux d'une torche. C'est vertigineux,
ouais, c'est
parce
bien.
Que c'est une narration absolument palpitante, et le lecteur ne voit rien. Ah, et
ouais.
Ça marche. Et ce qui est frappant, c'est que dans la seconde partie de sa carrière, quand il fait ce dont vous parliez tout à l'heure, quand il co-crée en même temps que Art Spiegelman avec Mouse, parce qu'ils ont travaillé en même temps, sans le savoir, à créer ce qu'on appelle le roman graphique, il change complètement. Et il simplifie complètement. Il fait plus de gros plans, il fait plus de contre-plongées. Il reste sur une narration qui est beaucoup plus simple, qui est extrêmement efficace. Mais il était venu en France à l'époque, et on en avait discuté avec des étudiants à l'école d'art d'Angoulême, et il disait non, mais j'aime plus ça, j'aime plus ce que j'avais fait à l'époque. Je préfère des choses très simples. Il faut rester le plus près possible de ce qu'on veut dire, et les effets nuisent au propos. Et j'ai la faiblesse de pas être d'accord. En tout cas, pour le Spirit, je pense qu'il se trompe.
Jean-Pierre, merci. Que vous a appris le personnage du Spirit?
Ce qui m'a appris, c'est que le second degré en bande dessinée existe beaucoup plus tôt et qu'on peut être un personnage, je dirais, du côté de l'ordre et de la justice sans être tout d'une pièce. Il y a une forme de second degré. Moi, j'ai découvert quand j'étais adolescent. Je regrette qu'il n'y ait pas de bonne édition du Spirit aujourd'hui, d'ailleurs, pour les jeunes lecteurs. Mais c'est ces relations à la fois de parfaite loyauté envers le commissaire Dolan et envers Hélène, qui est quand même sa fiancée, et en même temps ces relations extrêmement ambiguës avec ces femmes fatales et dangereuses qui sont séduites par lui. Lui peut être séduit aussi, mais voilà, on est dans cet entre-deux. Eisner est vraiment là-dedans. C'est un personnage qui préserve le côté humain des personnages et qui n'en fait pas des espèces de héros tout d'une pièce. Ça, c'est vraiment important.
C'était Personnage en personne, le 112e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de Tom Ripley, créé par Patricia Highsmith dans Monsieur Ripley.
Comme si j'étais assis là-haut. Paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, chargée de programme Meryl Moneghetti, prise de son Olivier Dupré.
De ma vie.
Dans un instant, Victor Massé de l'Épinay et le rayon BD.
C'était un grand jeudi. Tous les jours, paradis. De l'autre côté.